Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne d'Alternante. Aujourd'hui, en direct dans nos studios, je reçois Yuen Peko, qui est responsable de l'association Poucara ici à Nantes, une association qui a été créée en novembre 2010. Et on va voir quelle est son originalité et quels sont ses buts, puisqu'elle travaille avec la Bolivie, principalement dans une ville qui s'appelle Sucre. Et c'est plutôt à destination des enfants. On va développer pendant quelques minutes ce projet qui n'est plus un projet puisqu'il est bien établi depuis l'année 2010, mais les aboutissants et tout ce que cette association peut faire pour les enfants boliviens. Bonjour Yuen.
Bonjour Daniel.
Alors on va revenir sur cette association créée, je l'ai dit, en 2010. Quelles ont été tes motivations pour te lancer dans cette aventure ?
Donc oui, en effet, on a créé cette association en 2010 avec une amie de Bordeaux. Donc ça remonte à 2007, mes premiers voyages en Amérique du Sud, donc plus spécialement en Bolivie. Donc j'y suis parti à deux reprises, une fois avec un ami, une fois tout seul. Et donc c'est vrai que j'y ai rencontré beaucoup de choses très différentes de chez nous, une culture très forte, beaucoup de pauvreté. Donc c'est quand même un des pays les plus pauvres d'Amérique du Sud. Donc j'ai été très touché par toutes ces choses qui, dès mon retour en France, m'ont incité à me lancer dans l'aventure de l'association Poucara pour soutenir les enfants, pour faire connaître le travail des enfants en France, pour sensibiliser les gens, pour faire connaître la culture bolivienne aussi en France. Donc plein de choses qui m'ont amené à me lancer sur ce projet.
On peut revenir sur la Bolivie d'il y a quelques années, quand tu es allé pour les premières fois, et la Bolivie aussi d'aujourd'hui. C'est un pays qui est un peu coincé entre d'autres pays, qui n'a pas accès à la mer, beaucoup de géographie, si je me retrouve un peu. Donc c'est un pays extrêmement pauvre. Qu'est-ce qui t'avait principalement choqué quand vous êtes allé à plusieurs, il y a quelques années, sur le plan humain
Surtout les enfants. Moi, ce qui m'a choqué, c'était les enfants qui travaillaient, qui demandaient de l'argent, qui faisaient des petits boulots à droite à gauche, comme cireur de chaussures, laveur de voitures. Donc, quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant en France. Donc, c'est ça, ça m'a énormément choqué, ouais. Donc, c'est vrai que, comme tu le disais, la Bolivie, elle se trouve très enfermée, elle a des situations géographiques très difficiles. D'un côté, la cordillère des Andes. De l'autre côté, la forêt amazonienne, donc elle se trouve vraiment dans une situation géographique difficile qui ne favorise pas son développement économique. Oui, sans ça. Accès à la mer, depuis la guerre du Pacifique dans les années 1879-1884.
Oui, parce qu'il y a eu des conflits entre les différents
avec le
pays.
Le Chili et le Pérou. Ouais.
Donc économiquement, c'est un pays compliqué, même s'il y a eu des bouleversements politiques, tout ça. Mais,
c'est un pays qui a d'énormes ressources naturelles, qui a beaucoup de gaz, de lithium, de pétrole, mais qui n'a pas encore, on va dire, peut-être le savoir pour développer toutes ces ressources, pour pas dépendre d'autres pays comme le Chili qui va traiter le gaz des Boliviens. Donc voilà, ils n'arrivent pas à gérer eux-mêmes ces ressources-là.
Et comment il est perçu le président actuel, on peut en parler, on en parle aussi assez souvent. Comment par rapport à ses voisins, aujourd'hui, la situation est quand même plus apaisée qu'à une époque.
Donc le président Evo Morales, oui, qui est en président de Bolivie depuis 2006.
Qui est d'origine indigène.
C'est le premier président indigène de Bolivie. Donc depuis 2006, qui a créé l'État plurinational de Bolivie. Donc, qui était très bien vu à son entrée, donc qui était là pour le changement, pour un gros changement en Bolivie, avec mise en valeur des gens de la campagne, des peuples indigènes et amérindiens, donc qui étaient mis de côté depuis des siècles. Après, au cours des années, il y a eu un petit changement de la vision qu'il donnait aux gens, parce qu'il y a eu beaucoup de corruption, bien sûr, beaucoup de choses qui ont été faites, bien faites, mal faites. Donc il y a eu de belles années. Maintenant, c'est sur la fin de, je pense, du mandat d'Evo Morales, qui a essayé de faire un référendum l'année dernière pour savoir si les gens étaient prêts à changer la constitution de nouveau pour être élus une troisième fois, si je ne me trompe pas. Donc ce référendum a vu le non l'emporter. Donc normalement, Evo Morales ne sera pas là l'année prochaine.
On peut imaginer que pour tous les gens comme toi qui créent des associations, hein, qui viennent en aide dans différents pays, vous êtes très sensibilisés justement à l'action politique qui est menée dans ces pays-là et l'évolution politique justement, puisque ce que vous faites a un impact sur ces régions, et puis ça peut à la fois vous motiver pour continuer et puis peut-être faire marche arrière suivant les régimes politiques qui se succèdent.
Hein. Bien sûr. Là, le régime politique en place veut une éducation pour tous, donc dans le moindre recoin de la Bolivie, en campagne surtout, là où l'éducation n'était pas très présente. Donc il y a beaucoup de moyens qui ont été mis en œuvre. Après, il y a des limites, certaines limites, donc comme les structures, il y a peu ou pas de structures éducatives, on va dire, qui viennent en complément de l'école, donc en campagne, dans les zones périphériques des villes, où notre association se œuvre. Donc c'est vrai qu'il y a des limites, il y a des choses qui ont été faites, mais de grandes limites.
Ouais. Voilà. Bon, on va revenir maintenant précisément sur l'association Pucará, qui œuvre dans la ville de Sucre, hein, qui est, n'oublions pas, la capitale
de la Bolivie. Voilà, la capitale constitutionnelle.
Voilà, parce que souvent on pense à La Paz, mais qui n'est pas...
Qui est la capitale administrative, voilà, tout à fait. Coup, de la Bolivie. Ouais.
Il y a une... Juste avant de venir dans les faits sur l'association Pucará, il y a des différences entre ces deux villes?
Alors, ces deux villes, La Paz est une ville beaucoup plus grande que Sucre, qui se trouve dans une région, la région des Aymara, donc le côté péruvien, proche du Pérou. Donc c'est une très grande ville, alors que Sucre est une ville quand même plus petite, 280 000 habitants environ, et située beaucoup moins en altitude, à 2700 mètres seulement d'altitude, Sucre. Une ville plus riche, Sucre aussi. C'était la classe aisée au moment de la colonisation qui se trouvait à Sucre, donc il y a une classe sociale beaucoup plus élevée que La Paz. Donc ce sont deux villes très différentes, oui. Mais qui subissent aussi tout de même la migration de la campagne. Oui,
Beaucoup de gens viennent de la campagne vers
fournir les villes, voilà. Ouais.
Alors justement, pourquoi avoir choisi Sucre et pas La Paz?
Alors pourquoi avoir choisi Sucre? Parce que la première fois que j'ai voulu retourner en Bolivie pour m'investir dans une association, pour y travailler, pas pour faire du simple tourisme, j'ai trouvé sur internet un centre socio-éducatif qui s'appelait Nianta, qui venait en aide aux enfants et adolescents travailleurs et qui était basé dans la ville de Sucre. Donc j'ai rejoint cette ville à cause, on va dire, de ce projet que j'avais rencontré sur Internet.
Oui. Et on peut revenir sur cette structure dont tu parles, André.
Donc ouais, cette structure, je l'ai intégrée en 2010. Donc c'est un centre socio-éducatif qui est fermé maintenant, mais qui s'occupait des enfants et adolescents travailleurs, qui leur proposait un repas le midi, diverses activités d'artisanat, d'aide aux devoirs, de sport, de manier l'ordinateur, donc plein d'activités.
Il fonctionnait de quelle manière?
C'était un espace ouvert, ouais. Qui était complètement ouvert. Les enfants venaient, s'investissaient s'ils voulaient.
Financé par de l'associatif étranger ou
financé
local?
Essentiellement par de l'étranger, ouais. Ouais.
Et bon, on peut imaginer qu'elle avait un rôle important. Et ça a périclité ou ça s'est arrêté pour une raison?
Alors
bien
ça
précise.
S'est arrêté pour une mauvaise gestion. Il y a une mauvaise gestion qui a été faite. Après aussi des fonds qui se réduisaient. On était dans des années en Europe où la crise commençait à se faire sentir. Donc des difficultés à trouver de l'argent pour des projets comme celui-ci dans des pays, la Bolivie, qu'on parle très peu. Donc c'est un projet qui s'est arrêté.
C'était quand même un projet qui fonctionnait bien.
C'est un projet qui fonctionnait bien, qui avait de bonnes années d'expérience. C'était parti d'une cantine qui après, les organisateurs de ce projet s'étaient dit, au-dessus d'une cantine, on pourrait mettre des activités pour attirer les enfants. Donc c'est quelque chose qui marchait très bien avec beaucoup, beaucoup d'enfants qui venaient y participer.
Donc c'est ça qui t'a, cette fermeture aussi qui t'a motivé pour prendre en quelque sorte un peu le relais, mais pas tout à fait de la même manière que le faisait cet organisme.
Voilà, donc cette fermeture de ce centre, moi quand j'y suis retourné une deuxième fois en 2012 pour retourner travailler dans ce centre qui était fermé à ce moment-là. Donc j'ai intégré une nouvelle structure dans la même ville de Sucre qui s'agissait de l'école mobile.
Donc on peut en parler justement, voilà. Hein, parce que
Donc l'école mobile, c'est une école mobile, comme son nom l'indique. C'est une structure mobile, donc une sorte de remorque avec des panneaux qui s'ouvrent, qui atteint une grandeur de 10 mètres, donc sur lequel sont installés des panneaux éducatifs avec différents thèmes, des mathématiques, du langage, plein de thèmes éducatifs sur lesquels les enfants viennent travailler et jouer. Donc la base, c'est le jeu, il faut que ce soit ludique, il faut que les enfants aient envie de jouer. Donc c'est une structure qui vient en complément de l'école. Bien sûr, on ne remplace pas l'école, l'école mobile ne remplace pas l'école. L'école est en Bolivie obligatoire par demi-journée. Donc nous, on vient sur la demi-journée où les enfants ne vont pas à l'école. Et c'est une structure qui se déplace sur la ville, sur sur des quartiers défavorisés de la ville, donc sur 8 zones.
Donc, mais à proximité de l'école ou justement un peu éloigné?
Alors c'est des quartiers qui sont éloignés du centre-ville, qui disposent de leurs propres écoles, mais qui sont éloignés du centre-ville. Et aussi sur des quartiers, sur des zones de travail où les enfants travaillent. Par exemple, on a un quartier où les enfants nettoient les voitures. Donc nous, on vient s'implanter avec l'école mobile sur cette zone pour sortir un petit peu les enfants de leur travail. Si c'est 20 minutes, c'est déjà ça de pris. Donc c'est être sur la zone pour que les enfants puissent venir profiter des activités de l'école.
Alors, qui était dans cette école mobile, je veux dire, en tant qu'éducateur ou autre, une part de gens comme toi venant de l'extérieur et puis des gens des Boliviens?
Voilà, donc il y a deux éducateurs boliviens en permanence sur le projet, dont Gladys, qui est l'éducatrice depuis le début de cette école mobile, donc qui a 12 ans d'existence. Donc elle a un rôle très important dans ce projet parce qu'elle connaît très bien les enfants, elle connaît les familles, elle connaît les quartiers. Donc il y a une réelle confiance qui s'est mise en place entre les enfants et elle. Donc on peut aller chercher les petites choses vraiment précises chez les enfants, des petits soucis de famille, des soucis de santé. Donc c'est le but, c'est de créer une confiance entre les enfants et l'institution, et l'école mobile, oui.
Donc ça, c'est une structure pérenne, hein. C'est quelque chose de bien installé aujourd'hui là-bas.
Voilà, c'est quelque chose qui fonctionne depuis 12 ans, donc ce n'est pas un projet qu'on met en place, c'est quelque chose qui fonctionnait déjà. Qui a des grosses difficultés en ce moment, depuis 2012, avec la crise en Espagne, parce que c'est un projet qui était financé par les Espagnols. Donc depuis, sa survie dépend vraiment de petites associations comme la nôtre. Une autre association, Liechtenstein, Alegria Bolivia, et une association en Belgique, à la Boliviana, qui crée des petits événements, comme nous, notre rando VTT, des soirées spaghetti, plein de petits événements.
Ça, parce que les éducateurs sont payés, leur salaire est financé par cet argent qui vient déjà, et puis tout je suppose, le matériel qui fait fonctionner cette école.
Voilà, c'est les salaires des deux éducateurs, parce qu'il y a Gladys, donc l'éducatrice, et Marco qui est le chauffeur, du coup éducateur-chauffeur, parce qu'on a l'école mobile dispose aussi d'une camionnette pour bien sûr tirer cette structure mobile et pouvoir se déplacer dans les quartiers. Et tous les frais liés au matériel éducatif, au matériel lié aux jardins familiaux, parce qu'il y a aussi une mise en place de jardins.
Oui, c'est encore autre chose à côté.
Une éducation nutritionnelle. D'accord. Donc ça rentre dans le cadre de l'éducation mise en place par Evo Morales, dans son état plurinational, d'une éducation de base et d'une éducation nutritionnelle et de formation professionnelle. Donc l'école mobile a souhaité intégrer cet objectif aussi d'éducation
nutritionnelle. Et cette école mobile, elle est financée aussi par les autorités boliviennes ou pas?
Non, il n'y a aucune aide des autorités boliviennes. C'est bien dommage parce que ça s'inscrit vraiment dans leurs objectifs d'éducation pour tous. Surtout que ce projet va voir les enfants qui en ont besoin, donc des enfants en difficulté. Ce sont souvent des enfants qui viennent de la campagne, qui ont migré avec leur famille de la campagne. Donc ils sont venus en ville avec leur famille pour y trouver du travail, une meilleure situation, ce qui ne s'avère pas vrai au fil du temps. Donc ce sont des enfants en difficulté, des enfants qui viennent de la campagne, qui sont dans la plupart autochtones, qui sont des peuples indigènes, donc qui sont victimes de beaucoup de discrimination. Il y a énorme discrimination en Bolivie envers ces personnes, qui représentent une grande partie de la population. C'est 55% d'indigènes en Bolivie, 30% de métis, Donc ça représente 85% de la population.
Oui. Cette école mobile, elle existe qu'à Soucré ou dans d'autres endroits ?
Alors cette école mobile, c'est une des 36 écoles mobiles qu'il y a dans le monde. Donc on en trouve dans tout le monde entier.
Elles ont tout un lien quand même entre elles, je dirais,
voilà.
À la base.
Voilà, elles ont été fabriquées, la structure a été fabriquée par l'organisation Mobile School, qui est implantée en Belgique. Donc elle s'engage à mettre à disposition sa structure mobile avec ses panneaux éducatifs auprès d'organismes locaux qui, eux, prennent le relais et se chargent du fonctionnement, des frais de fonctionnement liés à cette école. Donc il s'engage à l'institution Mobile School en Belgique s'engage à former les éducateurs. Car c'est vraiment...
Oui, c'est vraiment une structure solide.
C'est une structure solide en Belgique, ouais. Totalement.
Oui, tout à fait. Alors toi, quand tu y vas, puisqu'on peut s'en parler, tu y vas de temps en temps, non seulement en tant que président de Poucara et apporter des fonds si nécessaire, mais tu participes aussi là-bas.
À titre personnel, oui, oui bien sûr. Ouais. J'y vais, j'essaie d'y aller une fois tous les ans, tous les deux ans. Donc j'y vais vraiment par plaisir pour retourner voir les enfants, les amis, voir la structure, comment elle fonctionne. Donc pour travailler en tant que bénévole, voilà, j'apporte ce que je peux apporter à l'école. Voilà, après, c'est vrai que des bénévoles, il y en a énormément. Il y en a tous les ans des nouveaux.
Qui viennent du monde entier, je dirais.
Voilà,
aussi.
Du monde entier, ouais. Surtout d'Europe, surtout d'Allemagne. Donc beaucoup d'Allemands, de jeunes Allemands qui terminent leurs études et avant de commencer la faculté, entre le lycée et l'université, ont une année où ils peuvent s'investir dans des missions humanitaires, comme par exemple rejoindre l'école mobile.
Ouais. Alors une interrogation, c'est justement, tu évoquais, tu disais que cette école mobile n'était pas du tout financée par des fonds boliviens. Alors c'est une question qu'on peut poser pour la Bolivie, mais pour d'autres endroits dans le monde, justement. Est-ce qu'à ton avis, c'est peut-être des sujets de discussion que vous avez pu avoir aussi, c'est que les États se dédouanent un peu en laissant les organismes ou les missions humanitaires étrangères ou autres financer des projets où elles se retirent. Alors, je pense qu'elles apportent quand même, qu'elles apportent leur soutien, hein, voilà, leur caution morale.
Voilà, mais elles sont pour.
Sont pour sans doute, mais voilà.
Mais c'est vrai qu'avec un petit coup de pouce de l'État bolivien, ça serait toujours plus positif. Après, je pense qu'il y a c'est vraiment des pays qui sont en train d'émerger. La Bolivie est en train d'émerger, de se développer. Donc, c'est peut-être pas les priorités, on va dire. Il y a des priorités qui sont annoncées via l'éducation pour tous, mais des difficultés peut-être à mettre en place des soutiens à ce niveau-là. Donc peut-être, on peut espérer que dans l'avenir, ça change un petit peu, qu'il y ait beaucoup plus de structures mises en place en campagne, dans les périphéries des villes, pour ceux qui en ont besoin. En centre-ville, il y a ce qu'il faut, ça, c'est pas un souci. Les enfants ont tout ce qu'il faut.
Au niveau scolaire, il y a quand même des écoles correctes, je dirais.
Voilà, ouais. Depuis 2006, il y a quand même il y a eu beaucoup de choses de faites au niveau de l'éducation. Ouais. Ouais.
Je voudrais qu'on revienne un peu, après on verra bien précisément ce que ton association apporte aussi là-bas, le travail des enfants, puisque c'est quelque chose qui n'est pas spécifique à la Bolivie, mais il y a des choses, des enfants qui travaillent très jeunes, il y a des lois pour le travail chez les jeunes, il y a plein de choses, plein de sujets peut-être dont on peut débattre là, sur cette question-là.
Ah, c'est vrai que le travail des enfants en Bolivie, ça peut... Je rencontre beaucoup de gens qui me disent comment vous pouvez laisser des enfants travailler, c'est contre les lois internationales. Après, c'est vrai que la Bolivie, comme d'autres pays en difficulté, les familles sont dans la difficulté si profonde, on va dire, que les enfants ont besoin d'aider leurs parents. Donc ça peut être pour des achats tels du matériel scolaire, des vêtements, les aider pour la nourriture. Donc c'est vrai qu'en Bolivie, il y a beaucoup, beaucoup d'enfants et adolescents travailleurs.
Et qu'est-ce qu'ils font précisément, ouais.
Donc précisément, ils travaillent dans le commerce comme vendeurs ambulants, par exemple. Ils peuvent être vendeurs ambulants, vendre des bonbons, des sucreries, donc aussi bien le jour comme la nuit. Donc ils marchent avec leur caisse de bonbons, on va dire, qu'ils essayent de vendre en démarchant les gens. Ou à des postes fixes, donc là c'est souvent des travaux exercés par les filles, où elles viennent aider leur mère sur les marchés par exemple. Donc voilà, ça c'est lié plus au commerce. Après, il y a des travaux de rue, services de rue, surtout les cireurs de chaussures sur les places. Les porteurs, donc ils viennent porter des marchandises pour les vendeurs sur les marchés. On a des vendeurs de journaux, vendeurs ambulants aussi. Les enfants au cimetière qui viennent nettoyer les tombes, qui viennent entretenir le cimetière, faire des visites guidées pour les gens. Et on a aussi les laveurs de voitures, zone sur laquelle l'école mobile se déplace. Et tous les services qui sont hors des rues, donc dans les transports en commun, notamment dans la ville de La Paz, où il y a beaucoup de crieurs de bus pour indiquer les stations de bus. Et des employés de maison, donc des postes également réservés quasiment aux filles, qui du coup sont très difficiles à vérifier dans les conditions de travail.
Parce que on peut imaginer, tu as cité un certain nombre de professions, entre guillemets, avec un degré de pénibilité pas très compliqué, mais ça peut être peut-être plus compliqué dans d'autres domaines ou des choses qu'on ne voit pas précisément. Peut-être.
Bien sûr, bien sûr. Après, même si c'est pas, on va dire, des travaux pénibles physiquement, il y a ce problème d'être se retrouver dans la rue la nuit, se confronter à d'autres bandes d'enfants ou d'adultes qui peuvent où il peut y avoir de la violence, beaucoup
existe,
de discrimination.
Elle existe cette violence ?
Elle existe totalement, ouais. Surtout envers les enfants indigènes, ouais. Une grande discrimination. Même un non-respect des prix pratiqués par les enfants. Par exemple, si l'enfant demande à être payé 2 bolivianos, ce qui représente 20 centimes d'euros, pour lustrer les chaussures, beaucoup de gens vont essayer de négocier ces prix-là, alors que c'est quand même un prix très raisonnable, on va dire, et pour un enfant, essayer de l'aider, on va au moins lui donner le prix qu'il demande. Donc il y a beaucoup de soucis à ce niveau-là de discrimination. Oui.
Lorsqu'on parle travail des enfants, c'est à partir de quel âge ?
Alors les enfants travaillent très tôt, très très tôt, ça peut être à partir de 5 ans. Donc là en Bolivie, depuis l'année dernière, il y a une nouvelle loi qui a été mise en place qui permet aux enfants de travailler à partir de 10 ans. Donc elle a été mise en place en juillet 2014, cette loi. Donc les enfants sont autorisés à travailler à partir de l'âge de 10 ans. Donc l'idée de ce projet a été de faire respecter les droits des enfants, les droits des travailleurs, donc pour qu'ils aient une sécurité, on va dire, face à l'emploi. Alors après, c'est sûr que c'est très critiqué, parce que c'est bien de mettre une loi pour autoriser ce travail, mais après, s'il n'y a pas de choses mises en place pour ces enfants, on va droit dans le mur. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup... Il y a eu cette loi, mais à côté de ça, pas grand-chose de mise en place. Il y a eu une protection institutionnelle des enfants pour faire valoir leurs droits, mais à côté de ça, il n'y a pas eu grand chose.
Alors revenons sur l'association Pucará. Vous êtes très peu nombreux. C'était aussi la raison aussi de cette invitation aujourd'hui, parce qu'on souvent on voit des associations. Il y en a sur la région nantaise et ailleurs qui œuvrent dans différents pays. Et on en a reçu ici qui travaillait avec l'Amérique du Sud, mais souvent c'est des groupes très structurés avec beaucoup de monde. Là, le mérite fait aussi que vous n'êtes pas nombreux dans l'association et que en fait, c'est surtout toi qui travailles, que vous n'obtenez pas d'aide ici en France, d'aide publique jusqu'à présent, et que l'argent que ton association apporte là-bas, c'est à la sueur un peu de ce que tu fais ici. Hein, et on peut justement en parler.
Ah, c'est vrai qu'on n'est pas nombreux. À la base, on n'était que 3, donc c'est le minimum pour créer une association. Maintenant, on est 4. Donc, l'ancienne collègue française avec qui nous avons créé l'association, Cécile, sa mère, mon père, et tous les amis, la famille qui me soutiennent tout le temps, bien sûr, quand on crée notre événement.
Voilà, donc on va y revenir, parce qu'il y a quand même de l'argent de récolter. Donc, sous quelle forme et de quelle manière, je veux dire, ici, sur la région nantaise ?
Alors, sur la région nantaise, notre événement, c'est la randonnée VTT, tu sais, sur Erde, voilà, qui a lieu le 11 septembre et qui aura lieu le 10 septembre prochain, en 2017. Donc, nous, c'est l'objectif de cette manifestation, bien sûr, c'est récolter des fonds pour le projet en Bolivie, mais c'est aussi créer du lien social, créer de l'événement, faire plaisir aux gens, dans la bonne humeur, dans un contexte sportif, car le sport c'est quand même quelque chose de très important, on pense, pour nous.
Et fédérateur aussi.
Fédérateur, oui. Ouais. Donc voilà, donc ça c'est notre principal événement, la randonnée VTT. Après on essaye de faire parler de nous, de trouver d'autres associations nantaises de la région qui peuvent... en créant leur événement, venir nous soutenir financièrement. Donc c'est le cas du Rotarac de Nantes qui nous a soutenus via sa Muscamour, une dégustation de muscadet dans le vignoble de Valette. C'est aussi le cas de l'association Drop Show qui organise des spectacles de danse, qui l'année prochaine fera un cabaret circus également pour notre association. Donc c'est bien, les choses commencent à bouger, il y a des associations qui s'engagent à nos côtés. Donc la
mayonnaise. Il y a d'autres sur cette ville de Soucré, il y a d'autres associations françaises ou du secteur? Vous avez sur place, tu as quelques relations là-bas?
Non, association française, non. Non, il y avait des associations françaises, mais il n'y en a plus, non.
Ouais. Alors justement, la grande question, c'est de pérenniser les choses, à la fois, puisque ces associations, elles vivent grâce à des gens comme toi qui, ici, apportent des fonds et sont un relais important. Donc comment tu vois ça à long terme? Parce que la crainte, c'est justement la pérennisation de ce qui fait là-bas. Il y a les conditions, on les a abordées déjà, les conditions politiques ou économiques du pays qui peuvent souvent faire basculer des tas de projets qui existent depuis longtemps. C'est des choses à laquelle tu réfléchis.
Bien sûr, c'est vrai que la grande crainte, c'est d'arriver à soutenir ce projet peut-être 2 ans et au bout de 3 ans être dans l'impossibilité de continuer. Donc c'est pour ça que je me donne à fond pour essayer de trouver les bons interlocuteurs, pour essayer de trouver les bons moyens de pérenniser ce projet. Nous, ce qu'on souhaite, c'est bien sûr que l'institution locale aussi prenne ses responsabilités, fasse plus d'efforts pour trouver des fonds boliviens. Donc ça se met en place tranquillement. Là, il y a des nouveautés qui font que l'école mobile va être financée via une association du Liechtenstein, donc en partie, pas entièrement, mais donc du coup on a le soutien de l'institution qui chapeaute l'école mobile en Bolivie.
Quand tu vas là-bas, ça t'arrive d'avoir des relations avec des structures du pays, je dirais, au niveau des institutions locales ou plus même nationales? Non, pas forcément.
Non, pas forcément. Non, c'est vrai que je reste plus concentré sur ce projet-là. Ça peut être intéressant de voir un petit peu comment fonctionnent les autres aussi, c'est vrai.
Tu évoquais tout à l'heure une femme qui s'appelle Gladys, hein, qui s'occupe de cette école mobile. Donc ça fait déjà un certain nombre d'années qu'elle est là. Donc ça, c'est des personnes sur place qui sont très solides pour faire vivre ce type d'association. La crainte aussi, c'est qu'une personne comme elle arrête ou pour diverses raisons doit aussi passer le flambeau ou pas.
Hein, bien sûr. Il y a déjà eu un gros changement qui était du coup René, qui était l'autre éducateur qui était avec Gladys. Donc ça a été un gros changement parce que lui était présent aussi, ça faisait déjà plus de 8 ans qu'il était présent sur la structure. Mais il y a toujours d'autres personnes qui prennent le relais, qui s'investissent, qui ont de nouvelles idées, qui apportent de nouvelles choses, comme le nouvel éducateur Marco qui est professeur de musique aussi, donc qui apporte de nouvelles choses, de nouvelles activités via la musique. Donc il y a toujours possibilité de s'en sortir, même s'il y avait, on va dire, des gros changements dans les éducateurs. Après, c'est vrai que Gladys, c'est un élément clé du projet, car elle connaît très bien les enfants, les familles, elle parle quechua aussi. Donc c'est un avantage pour pouvoir communiquer avec les familles, car très peu parlent espagnol. Donc c'est vraiment quelqu'un de très très important pour le projet, c'est vrai.
Alors maintenant... Du point de vue humain, c'est une région que tu connais bien maintenant depuis un certain nombre d'années. Tu as, je pense, des liens particuliers aussi, non seulement avec le continent sud-américain qui est énorme, mais avec la Bolivie et Sucre. Il y a des liens qui se créent humains très forts avec des gens aussi sur place.
Ouais, c'est ça qui m'a fait retourner aussi en Bolivie, qui m'a incité à pousser, on va dire, pousser l'aide au maximum, parce que c'est vrai que j'apprécie énormément ce pays, la Bolivie, l'Amérique du Sud en général, mais la Bolivie a quelque chose pour moi qui est assez, assez énorme. Ça fait partie de ma vie maintenant, on va dire, ouais.
Ah oui. Et sur il nous reste quelques minutes, comment vois-tu l'avenir, autant de ces aides diverses ou de l'apport que Pucará peut faire là-bas, sur les conditions politiques? Bon, tu vois les évolutions, tu les as évoquées, hein, notamment en matière éducative, mais à plus long terme, comment tu vois tout ça?
C'est vrai que c'est pas évident à voir sur le long terme. Après, je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Donc, je pense que le futur va être meilleur. Je pense vraiment qu'il sera meilleur.
Tu as une vision optimiste de l'avenir.
Ouais, je pense qu'il y a eu une grande valorisation des peuples autochtones, des gens de la campagne, chose qui avait été complètement bafouée bien avant. Donc je pense que l'éducation qui en plus qui va rentrer dans, pour ces personnes-là, qui vont les pousser à aller de l'avant. Donc moi je vois la Bolivie émerger et faire de belles choses, je l'espère en tout cas.
Avant de te demander si un jour tu penses t'installer là-bas, est-ce qu'il y a justement des Européens notamment qui sont qui ont quitté leur pays d'origine pour s'installer là-bas, pour faire fonctionner un certain nombre de choses ?
J'ai croisé beaucoup de Français, ouais, beaucoup dans le tourisme, dans la restauration. Qui sont devenus boliviens suite à un voyage, suite à une expérience de voyage souvent, ouais. Donc il y a possibilité de s'installer là-bas. Moi, c'est quelque chose qui me plairait. Après, on ne peut pas se projeter tant dans le futur parce qu'après, y passer 7 mois et y vivre, c'est différent. Mais il y a quelque chose qui attire en Bolivie. Beaucoup, beaucoup d'humilité et des gens très, on va dire, très... Ouais, très humble dans leur comportement et très respectueux de l'étranger, de l'autre, on va dire.
De ce qui est mis en place, justement, voilà. Aussi. Quoi. Donc, pour l'instant, tu restes ici, tu travailles ici sur le terrain pour apporter de la date. Pour l'instant, pas dans l'idée d'une installation définitive
pas encore, en
Amérique du Sud.
Pas pour le moment.
Bon, bah c'est très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé? On a encore quelques minutes, hein, sur des projets futurs ou ce qu'on a oublié d'évoquer sur cette action de Pucará.
Peut-être parler un petit peu plus de l'école mobile. C'est vrai que toutes ces activités sont faites pour assurer un appui éducatif, un appui psychosocial, une sécurité alimentaire. Donc c'est pas seulement dans l'éducation, c'est aussi dans le quotidien et assurer vraiment une vie, on va dire, améliorer la vie quotidienne de ses enfants et de ses familles.
Oui, alors, parce que les parents, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, peuvent avoir envie que leurs enfants travaillent parce que jeunes, puisque c'est un apport pour la famille. Donc à côté, il y a ce côté éducatif. Les familles perçoivent bien ces choses-là ?
Alors c'est assez difficile avec les familles de faire confiance aux familles que notre travail va pour le bien de leurs enfants. Ça, c'est assez compliqué, même si elles se trouvent dans des situations très difficiles, très précaires. Donc il faut dialoguer avec les directeurs des écoles, voilà, avec les directeurs de quartier, avec les responsables de famille. Donc c'est un travail qui se fait avec le temps, qui a été mis en place il y a plus de 12 ans. Donc après, il y a des zones de travail de l'école mobile qui sont différentes, qui ont changé dans le cours du temps. Mais c'est vraiment qu'un travail de fond et qu'il faut mettre en place pour pouvoir vraiment avoir après un travail au quotidien le meilleur possible.
Oui. Mais quand même, les familles aspirent quand même à une éducation de leurs enfants.
Voilà,
ça,
oui,
ça reste quand même important, même pour des gens venant de la campagne, hein, qui se sont greffés sur les périphéries des villes.
Bien sûr, ils se rendent compte que l'éducation des enfants éduqués, des enfants qui vont à l'université, c'est des travaux, des emplois derrière plus sûrs, plus rémunérés, donc peut-être une façon de remonter la famille vers le haut. Donc c'est sûr qu'ils poussent les enfants à étudier.
Youen, merci. Merci d'être venu parler de l'association Pucará, qui, alors pour ceux d'entre vous qui prendriez l'émission en cours, elle sera disponible très rapidement sur notre site internet en podcast. On y mettra également les références. Il y a un blog, il y a
une page Facebook, très bien.
Voilà, donc tous les ces renseignements-là seront mis en ligne. Et puis un petit coup de main pour l'association Pucará, ce serait sympa, porté par Yoann Peco. C'est une très belle démarche. Merci Yoann, et puis peut-être un de ces jours.
Merci Daniel, et merci Alternante FM.
Voilà, et merci à Manu qui a réalisé cette émission.
Merci Manu.